dates, deux concerts, deux endroits, deux styles de musique, c'est deux chroniques de concerts ratés. Radical Satan featuring Princesse Jaman, place Mukaï. Puis direction la salle Le Void avec Iron Fist, Dictat et les papis du punk mélo, The Adolescence. My woman's a girl, you are big love. On ne change pas une équipe qui perd. Allez, deux chroniques de concert. Alors le premier où je suis allé, c'était à Place Mocaillou, au 10. Du coup, il n'y a pas vraiment de nom pour cet endroit. Du coup, en tout cas, il y avait un concert d'annoncé avec Radical Satan et une chanteuse turque, Janan. Voilà, il n'y avait que ce seul concert, il n'y avait pas d'autres groupes avec. Le concert était gratuit, la bière peu chère, et l'ambiance était plutôt excellente. Du coup, il y avait une fuite d'eau la veille, qui avait inondé l'endroit, et ce qui fait qu'avec la chaleur, c'était particulièrement moite à l'intérieur, ce qui donnait une ambiance, une sorte de cave, de humide au possible, les poumons comme des éponges, et ça a donné encore plus ça nous est rentré encore plus en transe avec cette musique qui mélangeait subtilement un sort de tango très obscur avec la musique azéri de Janan. C'était une ambiance vraiment particulière, c'était très envoûtant, j'avais vraiment des frissons. Et voilà, donc du coup, c'était un pur concert, l'ambiance était vraiment bonne, malgré que la France ait gagné ce jour-là, ce qui emplissait les rues d'un certain bruit sourd nauséabond. Mais à l'intérieur de cette petite salle, l'ambiance était vraiment particulièrement excellente. Voilà, du coup, on va écouter un morceau de Radical Satan et de Janan. C'est assez long, assez triste, assez prenant. Voilà, c'est parti.
Qui met des enfants.
Ok, on vient d'écouter Radical Satan featuring Prince Ajanan. Voilà, vous avez pu entendre ce long morceau lancinant, triste, qui m'avait vraiment procuré de grands frissons. Voilà, c'était Place Caillou. Ensuite, je me suis dit que vu que ce concert-là avait été réussi, que c'était pas une bonne chronique du concert raté, on m'a invité au Void. Alors là, je me suis dit, c'est bingo, quoi. C'est sûr, le concert va être foiré avec les vigiles à l'entrée, espèce de fumoir ignoble où tu peux pas respirer, les consos super chers, tout le sainsouin. En plus, avec un groupe de punk avec des gens qui ont 50 ans qui jouent dedans, je me suis dit, bon, normalement, ça devrait le faire. Le concert devrait être bien pourri. Voilà, et du coup, on se pointe là-bas. Vu que je suis invité, déjà, je paye pas l'entrée, donc c'est plutôt voilà, petit privilège non négligeable. Hein. Peut-être que ça aurait pas été la même si ça avait été le cas. Ensuite, il y a un premier groupe qui commence, c'est du gros hardcore avec des grosses guitares, des gros amplis comme des frigos, du gros son, mais un maigre style. Voilà, c'était pas terrible. C'était vraiment genre, on essaie d'en mettre plein la vue, on fait tout en énorme, et finalement, dans le fond, c'était pas si terrible. Voilà, du coup, après, j'ai continué à boire des bières dehors, et puis il y avait un second groupe qui s'appelle Diktat. Alors, le premier groupe s'appelait Iron Fist, voilà, même le nom était. On fait un peu des tonnes. Le deuxième groupe c'est Diktat, c'est un groupe de Bordeaux. Et en fait je suis arrivé trop tard et je suis arrivé juste pour une reprise de Camera Silence, pardon. Un mythique groupe de Bordeaux et voilà, on hésite entre un bel hommage et un pur geste commercial, hein, parce que forcément c'est trop la classe de reprendre ce groupe, ça marche à chaque fois. Mais enfin, c'est pas les groupes qui font ces reprises de ce groupe-là qui manquent, et à chaque fois c'est assez du plus bel effet, hein, on s'amuse bien. Voilà, du coup c'était quand même cool d'entendre cette reprise de Camera Silence, malgré que j'ai pas entendu la suite de le groupe. Et enfin le troisième groupe, les ados sortis de l'hospice, voilà, et ben, ils avaient pas mal d'énergie à revendre, c'était grosse ambiance, et tout le monde était super chaud bouillant, c'était assez cool. Il y avait de tout, hein. Il y avait tout dans la zik, il y avait les oh, les hey, les gros solos de guitare, voilà, les gros slams, les gens qui se cassent la gueule en slamant et qui s'ouvrent les arcades. Et voilà, tout le monde chantait, tout le monde dansait. C'était vraiment plutôt un cool concert, alors que je m'attendais vraiment à voir des vieux croûtons déambulateurs essayer de rejouer des trucs qu'ils faisaient dans leur jeunesse. C'était pas le cas. Et voilà, et visiblement, les vigiles étaient plutôt absents, c'est-à-dire qu'ils laissaient les gens sortir. C'était pas toute sortie définitive comme ça a pu m'arriver dans cette salle de concert. Du coup, en fait, j'ai plutôt bien vécu, quoi. Ça m'a évité d'aller fumer dans cette espèce de fumoir immonde. Si jamais vous allez au Void, je vous conseille soit de prendre des patchs pour ne pas fumer et vous retrouver à pas aller dans cette salle, parce que c'est vraiment invivable, soit de se dire que bon, bah, vous sortez puis vous rentrez plus, quoi. Voilà. Un des trucs marrants au Void à savoir, c'est que personne n'est payé, mis à part les vigiles. Alors c'est vraiment le truc incompréhensible, c'est que tout le monde qui gère cette salle-là est bénévole, sauf les vigiles, quoi. Donc voilà. Peut-être j'irai leur poser la question la prochaine fois de savoir pourquoi les seuls employés de cette salle sont des gros cons. Voilà, du coup on va écouter ce groupe de punk que j'écoutais quand j'étais très jeune. Et que j'ai revécu avec plaisir au Void. Voilà, bon, voilà, on l'écoute, c'est Let It Go.
We'll be right back. Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole. À l'embellissement de la ville et à sa réputation. Nous avons la chance d'avoir de vastes espaces urbanisables, puis nous avons des handicaps, 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 puis nous avons des handicaps.
Ils lancent des gaz lacrymogènes, vous voyez, des manifestants envoient des projectiles. Vous voyez, là, ils essayent de se protéger, certains essayent de se protéger contre les gaz lacrymogènes. Et là, vous entendez les slogans. Tout le monde déteste
Bordeaux Métropole.
Bon voilà, alors le principe de la chronique Tout le monde déteste Bordeaux Métropole, c'est, je pense, au bout de genre une centaine d'émissions, je pense qu'on aura réussi à détruire Bordeaux dans son entier. Sauf qu'il faut qu'on le fasse stratégiquement et point par point. Alors, j'invite chaque personne qui me sont proches à me dire c'est quoi le point précis dans Bordeaux Métropole qu'il veut détruire.
Ouais, pour moi, le point précis, du coup, ça serait, parmi d'autres, mais quand même le point le plus intense, ça serait la pissotière, du coup, de la rue Broca au niveau de la Victoire, qui regroupe les auteurs pestinentiels sans en redonner la vie d'où elles arrivent. Au lieu de se croiser après des levées de coudes endiablées, tu peux te retrouver là en train de te soulager, alors que tu viens d'enivrer avec d'autres groupes et en fait, non, tu peux pas te croiser. On peut même pas la taguer et personne ne la regarde. Elle est vraiment aussi faite dans sa forme pour pas se regarder. La démonter prendrait bien trop de temps et d'efforts vu ce qu'elle représente. Non, la brûler avec pas mal de matos parce qu'elle est pas mal humide. Et de quoi la boucher définitivement, qu'il ne puisse pas la dépecer ou quoi. Puis bon, déjà, tu tapes la place de la Victoire en direction de Saint-Mich, tu la prends comme un passage, comme ce qu'elle est d'ailleurs, où il n'y a rien de marquant, rien de vraiment vivant. Et là, tu tombes sur un type qui se retrouve obligé de s'enfermer dans le festival des puanteurs car c'est trop hors civilisation de se soulager par là. Manque de rencontres possibles, l'obligation de s'enfermer dans un lieu affreux pour rentrer dans la civilisation. Intagable car à la fois trop inattaquable car à la fois trop nombreux, trop insignifiant, trop inexistante. Et pourtant, elle est vraiment une marque du monde qu'on nous oblige à vivre.
Ok, cool. Bon, bah, c'est vrai qu'il faudrait peut-être revenir aux pissotières en briques, où on pouvait taguer dessus, laisser des numéros de téléphone du genre « je te suce » au 05, 06, machin. Voilà, bon, peut-être qu'il faut qu'on enchaîne avec un morceau bizarre. C'est parti.
We'll be right back. Espacement doré, lacune, ils sont vus, les déserts verts, on les rêve, on les parlera, les oiseaux de jet immobiles, les armes couchées au soleil, le son des voix chantantes, les mortes, connivence, révolution, sa lardeur au combat, chaleur intense, mort et bonheur dans les poitrines mamelées, les phénix célibataires et dorés libres, on entend leurs ailes déployées, les oiseaux, les sirènes nageantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements, elles affirment triomphant que tout geste est renversement.
Osé, Baptiste, Sarah, Nice, Yol, Corée, Sabine, Daniel, Galzin, Edna, Joseph, Flore, Zita, Savé, Cornélie, Dropadi, Juliette, Etmel, Chloé, Desdemone, Raphaël, Iris, Vera, Arsinoe, Elise, Brenda, Orphis, Erodia, Bérénice, Sigrid, Andover, Amy, Pomme, Barbe, Bénédicte, Suzanne, Cassandre, Osmond, Jeanne, Hermine, Tika, Aurélie, Évangéline, Simone, Maximilienne, Calypso, Judith, Anne, Isotte, Christa, Robert, Blasta, Cléonis, René, Maria, Béatrice,
Monique la police, Vitic part en guerre.
Et salut, du coup on est Jacques et Minouche pour la deuxième émission sur le livre de Monique Wittig qui s'appelle Les Guerrières. Du coup juste pour vous remettre dedans, mais vaut mieux écouter celle d'avant, c'est une épopée un peu épique qui raconte la guerre d'un groupe de femmes contre tout ce qui les submerge habituellement. Il a été écrit en 69 par Wittig. Et aujourd'hui, c'est le cercle, la vulve, l'anneau solaire et les frondes qui vont nous intéresser. On va parler du cycle, ce qu'elle évoque énormément dans son livre. Et donc, on va commencer par vous lire quelques passages qui évoquent ça. Et ensuite, on reparlera un peu de ce que ça peut nous évoquer à nous.
Qu'est-ce que le début ? Disent-elles. Elles disent qu'au début, elles sont pressées les unes contre les autres. Elles rassemblent à des moutons noirs. Elles ouvrent la bouche pour bêler ou pour dire quelque chose, mais pas un son ne sort. Leurs cheveux, leurs poils frisés sont appliqués contre les fronts. Elles se déplacent sur la surface lisse, brillante. Leurs mouvements sont des translations, des glissements. Elles sont étourdies par les reflets au-devant desquels elles vont. Leurs membres, à nul point, ne peuvent s'accrocher. À la verticale, à l'horizontale, c'est la même glace ni froide ni chaude, c'est la même brillance qui nulle part ne les retient. Elles avancent, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Elles progressent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Elles se meuvent lancées les unes contre les autres. Les mouvements qu'elles amorcent avec leurs membres inférieurs ou avec leurs membres supérieurs multiplient les déplacements. S'il y a eu un déplacement initial, c'est un fait qui contredirait leur fonctionnement immuable. Ce serait une variation fondamentale qui contredirait le système d'ensemble. Il instaurerait le désordre. Elles vont, ou elles viennent, enfermées dans quelque chose d'étincelant et de noir. Le silence est total. si parfois elle tente de s'arrêter pour écouter quelque chose, le bruit d'un train, la sirène d'un bateau, la musique de XX, leur mouvement d'arrêt les propulse de part et d'autre d'elles-mêmes, les fait osciller, leur donne un départ nouveau. Elles sont prisonnières du miroir. Il arrive qu'elles parlent ensemble de la dernière fable qui a été rapportée. Par exemple, Diane et Belle racontent à Aimé Dionis la fable de Quéfeille, où il est question d'une jeune fille qui poursuit le soleil. Elle est sans cesse sur le point de l'atteindre. Pour lui échapper, le soleil se plonge dans la mer. Quéfeille alors se met à nager derrière lui. Elle traverse ainsi tout l'océan. Elle s'approche de lui au moment où il sort des eaux, pour lui échapper une fois encore. En hâte, Quéfeille saute dans le soleil et s'y introduit. Dans son mouvement, elle le fait basculer. Quelques étoiles tombent de ce fait. Cependant, Quéfeille est parvenue à s'asseoir dans le soleil. À présent, elle décide de sa marche. Elle peut lui faire parcourir son orbite lentement ou plus vite à son gré. C'est ce qui fait que pour avoir le beau temps, quand elles partent à la pêche, les petites filles s'adressent à Quéfeille, maîtresse du soleil, pour qu'elle s'arrête un peu au-dessus de la mer.
Son corps vert est couvert d'écailles.
Son visage est nu.
Les dessous de ses bras sont couleur d'incarnat. Quelquefois, elle se met à chanter. Elles disent que de son chant, on n'entend qu'un haut continu. C'est ce qui fait que ce chant évoque pour elle, comme pour ce qui rappelle le haut, le zéro ou le cercle, l'anneau vulvaire. Au bord du lac, il y a un écho. On s'y tient avec un livre ouvert dont les passages préférés sont redits de l'autre côté par la voix qui s'éloigne et répète. Au double écho, Lucie Mort crie la phrase de Fénaret. « Je dis ce qui est, est. Je dis ce qui n'est pas, est également. » Quand elle reprend plusieurs fois la phrase, la voix dédoublée puis triple superpose sans cesse ce qui est et ce qui n'est pas. Les ombres couchées sur le lac bougent en se mettant à trembler à cause des vibrations de la voix.
Elles disent que la déesse, Eurystikos, a une tête d'épingle et des yeux jaunes. Elles disent que ce qu'aime la déesse Eurystikos, ce sont les parfums. Pour l'honorer, on porte à même la peau des vêtements faits d'herbes odorantes. On les enflamme la nuit venue en mettant le feu à chaque brin. Elles sont disposées en cercle. Leurs vêtements dans l'obscurité sont incandescents. Elles se tiennent immobiles, les bras étendus de part et d'autre du corps. L'herbe, en brûlant, grésille et produit une odeur. Des fumées sont en train de s'éparpiller. Quand la chaleur atteint la peau, elle arrache brutalement leurs tuniques et les jette en tas. C'est ce qui fait qu'elles doivent sans cesse en fabriquer de nouvelles. Elle joue à un jeu. Il se pratique sur une esplanade de grande dimension. Le sol est partagé en bandes suivant les couleurs du spectre. Il y a 150 cerceaux violets, 150 cerceaux indigo, 150 cerceaux bleus, 150 cerceaux verts, 150 cerceaux jaunes, 150 cerceaux oranges, 150 cerceaux rouges. Les équipes sont composées de 75 personnes, chacune, placées de part et d'autre de la ligne médiane de l'esplanade. Chaque équipe dispose de bandes égales de violet, d'indigo, de bleu, de vert, de jaune, d'orange, de rouge. Une machine placée au centre de l'esplanade éjecte les cerceaux les uns après les autres, à un rythme rapide. Ils s'élèvent à la verticale au-dessus de la tête des joueuses. Ils tournent sur eux-mêmes. Ils décrivent en même temps un vaste cercle qui va en s'élargissant, suivant le mouvement que la machine leur a imprimé. Le tracé de leur déplacement serait une spirale immense. Les joueuses doivent saisir des cerceaux sans quitter les bandes de couleurs qui leur ont été assignées. Il y a très vite un tumulte merveilleux de corps qui se heurtent en tentant de s'emparer du même cerceau, ou de se retirer de la mêlée.
Elle regarde des vieilles images, des photographies. Quelqu'un les explique. Par exemple, la série de la fabrique de textiles. C'est un jour de grève.
Les ouvrières font un piqué de grève dans le champ où les bâtiments sont implantés. elles tournent en rond. L'une derrière l'autre en chantant, en frappant des pieds contre le sol, en battant des mains. Elles ont des blouses noires et des écharpes de laine. Toutes les fenêtres, toutes les portes de la fabrique sont fermées. L'une ou l'autre d'entre elles porte à bout de bras une pancarte où les mots d'ordre sont inscrits, peints en rouge sur le papier blanc. Sous leurs pieds, dans le champ, il y a un cercle de terre battue.
Les déambulations sont cycliques et circulaires, quels que soient les itinéraires, quels que soient les points de départ qu'elles choisissent. Elles aboutissent à la même place. Les parcours sont parallèles, équidistants, de plus en plus étroits à mesure qu'ils s'approchent du centre de la figure. Si elles suivent le tracé de l'intérieur vers l'extérieur, elles doivent parcourir le plus grand des cercles avant de trouver le passage à franchir qui les ramène au centre. Le système est clos. Aucun rayon partant du centre ne permet de l'élargir ou de le faire éclater. Il est en même temps illimité. La juxtaposition des cercles qui vont s'élargissant figure toutes les révolutions possibles. C'est virtuellement la sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part.
Il y a là Elsa Brauer, Julie Brunel, Odile Rock, Evelyne Sabir. Elles sont debout devant la grande assemblée des femmes. Elsa Brauer frappe les cymbales l'une contre l'autre.
Elsa Brauer dit quelque chose comme « Il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave, souviens-toi. » Tu t'en vas seule, pleine de rire.
Tu te baignes le ventre nu. Tu dis que tu as perdu la mémoire, souviens-toi. Les roses sauvages fleurissent dans les bois. Ta main se déchire au buisson pour cueillir les mûres et les framboises dont tu te rafraîchis. Tu cours pour attraper des jeunes lièvres que tu écorches aux pierres des rochers pour les dépecer et les manger tout chauds. Sanglant. Tu sais comment ne pas rencontrer un ours sur les pistes. Tu connais la peur de l'hiver quand tu entends les loups se réunir. Mais tu peux rester assise pendant des heures sur le sommet des arbres pour attendre le matin. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi. Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente. Elles disent, malheureuses, ils t'ont chassé du monde des signes. Et cependant, ils t'ont donné des noms. Ils t'ont appelé esclave, toi, malheureuse esclave. Comme des maîtres, ils ont exercé leur droit de maître. Ils écrivent de ce droit de donner des noms qu'il va si loin que l'on peut considérer l'origine du langage comme un acte d'autorité émanant de ceux qui dominent. Ainsi, ils disent qu'ils ont dit ceci est telle chose ou telle chose. Ils ont attaché à un objet et à un fait tel vocable, et par là, ils se le sont pour ainsi dire approprié. Elles disent, ce faisant, ils ont gueulé, hurlé de toutes leurs forces pour te réduire au silence. Elles disent, le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres. Elles disent, le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. Elles disent « Le langage que tu parles est fait de signes, qui à proprement parler désignent ce qu'ils se sont appropriés. Ce sur quoi ils n'ont pas mis la main, ce sur quoi ils n'ont pas fondu comme des rapaces aux yeux multiples, cela n'apparaît pas dans le langage que tu parles. Cela se manifeste juste dans l'intervalle que les maîtres n'ont pas pu combler avec leurs mots de propriétaire et de possesseur. Cela peut se chercher dans la lacune, dans tout ce qui n'est pas la continuité de leur discours. » Dans le zéro, le haut, le cercle parfait que tu inventes pour les emprisonner et pour les vaincre.
La disposition sériale se poursuit en même temps que le cycle s'achève. Mais c'est trop dire ou trop peu. Elles disent que, pour faire un cycle, il faut une série d'actions éclatantes ou d'événements extraordinaires et funestes. Charlotte Bernard dit qu'elles ne sont pas concernées. Emmanuelle Chartres dit qu'elle n'est plus de mise de s'émerveiller devant cette sorte de cycle. Marie-Serge dit qu'aussi bien le cycle peut se référer à des mythologies et ne pas faire mention d'actes qui aient quelque semblant de réalité. Flamini Pougent dit que pour elle, pour qu'elle y soit tout à fait impliquée, il faut les inventer. Elle rit alors et tombe à la renverse, à force de rire. Toutes sont gagnées. Il monte un bruit pareil au roulement du tambour sous une voûte. Les briques du plafond tombent une à une, découvrant par les ouvertures les lambris dorés des salles hautes. Les pierres des mosaïques sautent, les pattes de verre dégringolent. Il y a des éclats de bleu, de rouge, d'orange, de mauve. Le riz ne décroît pas. Elle ramasse les briques et s'en servant comme des projectiles, elle bombarde les statues restées debout au milieu du désordre. Elle s'applique à faire descendre les pierres restantes. C'est un choc terrible de la pierre contre la pierre. Elle évacue celles qui parmi elles sont touchées. La destruction systématique du bâtiment est menée à bien par elle au milieu d'un vacarme de cris, d'appels, tandis que le rire se prolonge, s'étale, devient total. Il ne prend fin que quand l'édifice, il ne reste plus que des pierres sur des pierres. Elles se couchent alors et s'endorment.
Les ophidiennes, les odolates, les oogones, les odoacres, les olynthiennes, les omphales, celles d'Ormur, celles d'Orphise, les oriennes, passés à l'attaque, rassemblés. Les convois qui les suivent portent les armes, la nourriture, les vêtements. Ils se déplacent la nuit, rejoignant les armées au point du jour, quand elles se retirent après avoir livré bataille. Leur arme la plus redoutable est l'ospa. Elles la tiennent dressée au-dessus de leur tête et la font tourner à toute vitesse, avec des moulinets de leur bras droit, comme avec un lasso qu'on projette devant soi, ou comme la lanière de cuir munie de bolos que l'on lance autour des jambes des chevaux sauvages pour les entraver. L'ospa est invisible tant qu'elle n'entre pas en action, quand elle est maniée au cours du combat. Elle se matérialise en un cercle vert qui crépite en exhalant des odeurs. Elle crée ainsi, avec l'ospa, en la faisant bouger à toute vitesse dans une direction donnée, un champ mortel. Aucun rayon, aucun coup de feu, aucune fulguration ne sont vus qui partiraient de l'ospa. La coalition des zéros est formée par des combattantes acharnées, pleines de courage, audacieuses, âpres, qui ne reculent pas.